Culture.
Bonjour à tous, auditeurs de Transistor. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Soyez les bienvenus dans ce 25e numéro de Transversar consacré au cinéma. Près de trois semaines après notre précédente émission sur la ville au cinéma qui a recueilli de nombreuses écoutes, merci. Beau programme aujourd'hui que nous vous proposons. Nous allons revenir ensemble sur quelques sorties récentes, bonnes comme Une vie meilleure de Cédric Kahn ou Millennium, dernier long métrage de David Fincher, ou beaucoup, beaucoup moins bonnes comme The Descendants d'Alexander Payne. Sommet de mauvais goût à éviter à tout prix, on vous le détaillera, même pour un rencard avec une fille amatrice de mélodrame.
Pour ce 25e numéro de Transversar, Pauline a concocté un dossier sur la cuisine et la gastronomie à l'écran au travers de trois films qu'elle analysera en cours d'émission. Pour ma part, je me suis permis de réfléchir à la question suivante. Quelle place occupent les grands burlesques dans le paysage cinématographique de 2012 qui semble avoir oublié quelque peu ses origines lointaines ? Nous tâcherons d'y répondre et reviendrons également sur les meilleures sorties à venir en fin d'émission.
Bruitage. Sans plus attendre, débutons ce 25e numéro de Transversar où vous entendrez parler de thrillers suédois, de Théo Angelopoulos, de macarons, de cailles en sarcophage, de choux à la crème, de Georges Clooney, de Ratatouille, de Chaplin, de Keaton et de bien d'autres. À chaque mois son lot de bonnes et mauvaises surprises. Je te charge d'annoncer les deux mauvaises, je m'occuperai de la bonne.
Eh oui, chaque mois son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Et celle-ci est une très très mauvaise surprise. On se souvenait d'Alexander Payne comme d'un cinéaste généreux, passé maître dans l'art de produire des comédies sympathiques, pleines de bons sentiments, comme Monsieur Schmitt avec Jack Nicholson il y a de cela bientôt 10 ans, ou plus récemment Sideways, un film où de vieux amis américains se retrouvaient en France pour passer des vacances ensemble autour d'un bon verre de vin. Si la critique, et la critique notamment américaine, s'était un petit peu emballée, les Français avaient su raison garder et grand bien leur en a pris visiblement. Son dernier film donc, The Descendants, de mémoire de cinéphile, très honnêtement, est l'un des plus mauvais films qu'il m'ait été donné de voir ces 5 dernières années. La vague nauséabonde engendrée par un courant faussement indépendant du cinéma américain, né dans les années 2000 avec les déplorables Little Miss Sunshine ou encore Juno, hein, qui est venu quelques années après, ce cinéma soi-disant indépendant s'est aujourd'hui totalement standardisé et il a encore fait des petits. C'est le genre de comédies douce-amère qui se veulent drôles mais qui ne sont en général que des leçons de tolérance et d'humanité, toujours stupides, hein, et même parfois bien obscènes. Tout porte à croire qu'Alexander Payne participe ici à un championnat, je vous fais le synopsis rapidement. Un quinca fait le point au chevet de sa femme mourante, c'est Georges Clooney, et il reprend ses deux filles un petit peu rebelles en charge. C'est l'occasion pour lui de devenir le père qu'il n'est pas. Alors je préfère le confirmer d'entrée de jeu, il va y parvenir, hein. Nous sommes dans un film hollywoodien. Ce qui est gênant, entre autres choses bien sûr, c'est que nous avons vu 40 fois ce même film où un vétéran d'Hollywood en quête de légitimité artistique s'échine à jouer une sorte de loser au grand cœur en déployant l'arsenal total de l'acteur qui veut exposer au monde l'étendue impressionnante de son jeu. La tête de cocker triste, les grosses cernes pour montrer le dépit profond du personnage et bien sûr voilà, le personnage pas rasé pour montrer que vraiment quelque chose va très très mal. J'ai gardé le meilleur pour la fin, The Descendants pourrait se limiter à un récit plus que bancal et pas drôle, mais Alexander Payne a préféré y ajouter de belles louches d'obscénité comme on les aime. J'en veux pour preuve cette scène grotesque où la femme de l'amant vient annoncer son pardon en pleurs sur le cadavre de la femme du héros, hein, avec un beau gros plan sur la bave au coin de la bouche pour faire plus vrai comme on dit. La scène finale est elle aussi un sommet de grossièreté où Georges Clooney et ses filles jettent les cendres de leur mère dans la baie d'Honolulu avec là encore un beau gros plan insistant sur le contenu de l'urne. Mauvais en tout point, The Descendants aurait pu être une simple déception vite oubliée, mais la prétention et l'insolence d'Alexander Payne en ont fait un film non seulement exécrable, mais aussi révoltant. Deuxième mauvaise nouvelle, le décès de Theo Angelopoulos. Le plus important des cinéastes grecs est décédé sur le tournage de son film sur la crise grecque. Theodoros Angelopoulos, hein, dit Théo, est décédé le 24 janvier 2012. Il avait débuté comme critique à l'instar des cinéastes de la nouvelle vague française et avait réalisé des films engagés, notamment contre la dictature en Grèce dans les années 70. Son œuvre de cinéaste politique a peu à peu laissé place dans les années 90 à des films à dimension existentielle, mais toujours ancrés dans des décors fournis par son pays natal. On se souviendra enfin de son attitude peu charitable au Festival de Cannes en 95, lorsqu'il était pressenti pour la Palme d'Or avec son film Le Regard d'Ulysse et qu'Emir Kusturica l'avait finalement eu. Il n'obtint que le Grand Prix. Il a déclaré devant l'assistance plein d'ironie. « J'avais préparé un discours pour la Palme d'Or, mais du coup, je l'ai oublié. Au revoir. » Au revoir, Théo.
Passons maintenant au film du mois. C'est une meilleure nouvelle. Nous avons sélectionné ensemble donc le film de Cédric Kahn, sorti début janvier, Une vie meilleure. C'est encore une fois un film social, comme quoi c'est peut-être dans l'air du temps. Dans la lignée donc du film dont nous avions parlé la semaine dernière, Les neiges du Kilimandjaro. Les personnages du film de janvier, contrairement à celui de Guédiguian, rêvent d'une vie meilleure, d'une vie plus faste. Ils s'accrochent à leurs rêves, si difficiles à réaliser soient-ils. Cela fait une légère nuance avec le film de Guédiguian, où les personnages étaient plus contents de leur sort. Ils connaissaient déjà une alternative au bonheur matériel, l'alternative étant l'amour, la famille, parce que le film commençait justement par la fin d'un rêve avec le licenciement du personnage principal. Commençons par un petit résumé d'Une vie meilleure. Yann rencontre Nadia alors qu'il recherche un travail qui lui permettrait de gagner mieux sa vie, de faire ses preuves en tant que cuisinier. Dès le début du film, on a ainsi Yann, un personnage qui lutte, qui dénonce la société. Pour avoir des responsabilités, dit-il au début du film, tu dois avoir de l'expérience, mais pour avoir de l'expérience, il faut que quelqu'un accepte de te donner des responsabilités. C'est en quelque sorte ce qui va lancer l'intrigue. C'est lorsqu'il se fait mettre dehors sans ménagement par le patron de Nadia qu'il rencontre la jeune femme. Les deux jeunes gens tombent amoureux. Ils rencontrent le fils de Nadia, Slimane, un petit garçon de 10 ans. Et ils trouvent le bonheur en quelque sorte dès le premier quart d'heure du film, lors d'une scène en pleine nature au bord d'un lac, en plein été et en pleine lumière. Le film s'assombrit très vite lorsque le couple se lance dans la rénovation d'un vieux restaurant. Yann entraîne donc les personnages à toute vitesse dans des emprunts divers et variés qui servent à financer la restauration de la vieille bâtisse. Et faute d'assez d'argent, ils ne peuvent finaliser le restaurant et n'obtiennent pas le permis d'ouverture. C'est alors que les choses se corsent pour le couple.
Mon fils.
Il a quel âge ?
9 ans et demi.
Elle est à vendre la maison.
T'imagines ce qu'on peut faire ici ? Là, tu fais un resto. Ouais, franchement, ça serait le rêve, un truc comme ça. Hein.
Comment on va faire pour l'apport ?
Faut prendre des prêts à la consommation.
Voilà, merci, vous êtes propriétaire.
Cédric Kahn avoue avoir voulu faire un film sur la violence du système capitaliste en général. C'est pourquoi le scénario ne se concentre pas sur les détails techniques du surendettement, même si tous les acteurs de cet engrenage sont présents, mais se concentre plutôt sur les conséquences de ce surendettement. Le film s'oppose de cette manière au film de Philippe Lioret, Toutes nos envies, qui était sorti en octobre dernier, qui évitait de filmer les conséquences réelles du surendettement pour se perdre dans le dédale technico-juridique de l'affaire. Au contraire, Cédric Kahn plonge ses personnages dans une dégringolade de plus en plus douloureuse dans la pauvreté. Yann n'est pas victime de la consommation. Là où dans Toutes nos envies, dans le titre même, on critique un comportement consumériste. Yann, donc le personnage d'Une vie meilleure, est victime plutôt de l'illusion que le capitalisme va lui permettre de changer de condition, de classe sociale. Ici, ça tourne au cauchemar parce que les ambitions de Yann sont trop grandes, mais elles sont trop grandes parce qu'il ne comprend pas à temps qu'il n'y a aucun espoir, qu'il ne peut pas changer de classe sociale. Que c'est trop difficile et que l'emprunt va se retourner contre lui et il est entraîné dans une pauvreté qui frise donc la clochardisation. Cédric Kahn se révèle très bon documentariste. Il filme le tiers-monde parisien sur des lieux de squat réels et à l'aide de quelques scènes très fortes permet de nous faire palper la réelle pauvreté et la promiscuité qu'elle entraîne. je pense à deux scènes. Une scène très violente dans l'immeuble donc, du marchand de sommeil, où la voisine fait sécher son linge dans la cage d'escalier. Le garde du corps met à terre le linge en insultant la femme. Et elle se bat contre lui, elle défend cet espace de mise en commun, qui est son espace personnel extériorisé. Tu veux venir voir si j'ai de la place ? Elle lui demande donc depuis la pièce obscure, et on perçoit très, très distinctement ce manque de place. Je pense aussi à une autre scène où le petit Slimane, le petit garçon, donc fils de Nadia, négocie les fruits et légumes que Yann a subtilisés dans le frigo de la cantine où il travaille. Et donc Slimane veut vendre ses oranges et ses pommes. D'abord 40 centimes la pomme, puis il finit par les vendre 10 centimes à force d'une âpre négociation avec un immigré de son immeuble. Ces scènes montrent justement l'envers de la consommation, l'anticonsommation, la pauvreté absolue qui est montrée dans sa grande violence avec un grand réalisme. Mais finalement, ce n'est pas dans le surendettement, dans les conséquences de surendettement que le film trouve son ton le plus juste. Mais c'est une fois démis de ces illusions qui font chuter le personnage principal toujours plus bas que ce personnage trouve un bonheur possible. La dernière illusion, celle de l'honnêteté, est celle qui s'abat le plus cruellement lors de la scène clé du film où le personnage ramène des baskets volées au magasin de sport et où le vigile l'oblige à les rembourser, une scène qui est terrible pour le spectateur. Mais c'est plutôt dans les scènes entre les deux hommes, enfin entre les deux garçons, entre Yann et Slimane, que le film trouve son ton le plus juste. C'est lorsque Yann abandonne l'idée de changer de vie pour mettre son énergie dans cette famille un peu hétéroclite que le film trouve sa lumière, ses échappées. En Normandie, par exemple, lors d'une scène de pêche assez mémorable, et un exil possible dans la fin, que je ne révélerai pas, mais qui est très émouvante.
En conclusion donc, s'il fallait résumer un petit peu ce que tu dis, le film de Cédric Kahn renoue avec un cinéma socialement désespéré dans une fuite en avant qui dénonce l'exploitation de la fragilité sociale, que ce soit par les forces institutionnelles, les banques ou les employeurs, et d'autres sources non institutionnelles, issues de la société civile, comme les marchands de sommeil dont tu viens de parler. Cette cruauté, cependant, ne doit pas occulter l'autre histoire, celle de la famille, qui offre en définitive une vie meilleure, et on retrouve ici le titre. Je te laisse désormais présenter ton dossier sur la cuisine au cinéma en trois films, Ratatouille de Brad Bird pour les studios Pixar, Le Festin de Babette, un film danois inspiré d'une nouvelle de Karen Blixen réalisée par Gabriel Axel en 87, et enfin, le déjà classique La Graine et le Mulet, réalisé par Abdelatif Kechiche, de mémoire, en 2006.
À Paris, la ville des plus grands restaurants et des meilleurs chefs au monde.
Paris, un saumon grillé pour la deux.
Toute ma vie, j'ai rêvé d'être l'un des leurs.
Vous vous dites sans doute que c'est un drôle de rêve pour un rat.
Mais j'ai toujours pensé qu'en travaillant dur et avec un peu de chance, tôt ou tard, mon talent serait enfin reconnu.
Attrapez-le ! Attrapez-le !
Vous vous rendez compte de ce qui se passerait si quelqu'un apprenait qu'il y a un rat dans notre cuisine ?
Oui, en effet, j'ai donc décidé de faire un petit dossier à l'aide de trois films, comme j'avais fait avec La Ville du Futur au cinéma, pour essayer de palper un peu le traitement de la cuisine comme gastronomie, la cuisine comme tradition, la cuisine comme identité aussi au cinéma. J'ai choisi trois films qui mettent plus ou moins la nourriture, la cuisine à l'honneur. Ratatouille parce que c'est dans le titre, Le Festin de Babette parce que c'est dans le titre et La Graine et le Mulet parce que c'est aussi dans le titre, même si la cuisine occupe une place un peu différente dans ces trois films. Je commencerai par Ratatouille parce que c'est le plus ludique et finalement avec un traitement assez joyeux et assez simple de la gastronomie. On a fait un grand cas du film de Brad Bird lors de sa sortie en 2007. Qu'en est-il véritablement du traitement de la gastronomie dans ce film ? Qui prend donc la cuisine française pour sujet principal de son film. Le film s'inscrit dans un Paris quelque peu fantasmé, un Paris des années 50 si on en juge par l'apparence des voitures. Les scènes de cuisine tiennent place dans une atmosphère rouge. Le film entier est baigné de rose et de violet très, très, très lourd et très sombre. Cette couleur tient une place centrale dans l'imaginaire parisien. Il n'y a qu'à penser au Moulin Rouge, très simplement, aux brasseries, etc. On retrouve cette couleur dans les tentures lourdes du restaurant, tout tapissé de rouge, donc dans le film, dans les plats cuisinés qui mettent le rouge à l'honneur, c'est la couleur dominante de la ratatouille finale, et dans les boiseries sombres et toutes les ombres du film en général qui ont ce reflet rouge foncé. À cette lourdeur visuelle s'oppose la gaieté et la légèreté des scènes de cuisine. La gastronomie est ici exploitée plus par son côté visuel que son goût. C'est normal dans un film, même si bon, on peut essayer d'aller un peu plus loin. C'est donc la chorégraphie de Naissance au plat qui fait l'objet de l'imagination insatiable des studios Pixar. En cela, donc, le choix du rat cuisinier trouve tout son sens, car ça, c'est un rat, donc un personnage tout petit, qui est naturellement amené à faire toutes sortes d'acrobaties pour atteindre les objets dont il a besoin. Cela est prétexte à des séquences visuellement très inventives, rythmées par une musique qui devient de plus en plus omniprésente. On peut penser à la première scène où le rat est amené à cuisiner. Il le fait donc clandestinement, puisqu'il n'est pas encore découvert par Linguini. Les aliments ne sont pas véritablement caractérisés durant tout le long du film. On voit la préparation d'abord d'une soupe, où sont renversés successivement de la crème liquide, des herbes, une poussière d'épices. On n'arrive pas véritablement à donner un nom au plat, à les reconnaître. La première scène donc, où le rat doit cuisiner est un modèle du genre, puisque le rat dirige les opérations tel un grutier dans sa cabine, ou plutôt comme un chef d'orchestre, dans la toque de Linguini, qui se laisse diriger comme un pantin désarticulé et se fait entraîner dans une danse étrangement rythmée par une sorte de tango argentin. Comme quoi les références culturelles, le mélange des cultures ne fait pas peur à Pixar, mais c'est très bien. La priorité étant ici de faire de quelque chose d'austère, la gastronomie, une activité visuellement ludique, pas du tout répétitive. Et de ce point de vue-là, c'est une grande réussite de la part de Brad Bird. C'est pourquoi donc, la cuisine est finalement reléguée un peu au second plan, pour devenir un décor de scène d'action assez classique, de course-poursuite ou de saut périlleux, comme je l'ai dit, le rat qui saute, les petits rats qui sautent partout. On peut citer par exemple une scène où Émile, donc l'ami rat du héros Rémi, est embusqué dans la cuisine. Il est camouflé par une ceinture d'asperges et il est transformé en catapulte vivante de grains de raisin. On voit que la gastronomie n'est pas vraiment ici ce qui intéresse le réalisateur et de ce point de vue-là, rien de nouveau sous le soleil. À un seul moment, le réalisateur s'attaque à la représentation du goût. C'est une des premières scènes où Rémi, donc le petit rat personnage principal, dans le noir d'une cuisine étrangère, expérimente le goût d'abord d'une fraise, puis d'un morceau de fromage, puis des deux ensemble. Et on voit des feux d'artifice de couleurs qui matérialisent en quelque sorte l'expérimentation du goût. C'est assez inventif et assez poétique. Malgré ces points très positifs, on peut regretter un manque d'audace culinaire de la part de Brad Bird. Comme je l'ai dit, on a la préparation d'une soupe, la préparation d'une ratatouille. La dernière scène avec la ratatouille fait preuve d'un certain conservatisme culinaire. Le critique qui goûte la ratatouille est transporté vers le passé, l'occasion d'un flashback en sépia qui n'a rien de très innovateur. Par la saveur de la ratatouille, on peut donc souhaiter aux cuisiniers de penser à l'avenir. À penser au futur de la cuisine, de la gastronomie, plutôt que d'assimiler la gastronomie à la présentation d'un plateau de fromage qui ouvre le film. À quand donc un film d'animation sur la cuisine moléculaire de Thierry Marx ?
We'll begin serving now. Well, let's take our places.
Yes.
Je passe maintenant à un autre film qui met donc la gastronomie à l'honneur. Celui-ci est un film qui se situe donc dans le 19e siècle danois, qui est donc un peu dépaysant. C'est Le Festin de Babette, donc un film de Gabriel Axel, sorti en 1987. Le film met en scène l'histoire d'un grand chef français, Babette, exilée donc chez des sœurs danoises, membres d'une secte protestante sur la côte du Jutland, après que sa famille soit morte dans les événements de la commune de 1871. Un beau jour, Babette gagne à la loterie et décide d'utiliser tout son argent, donc 10 000 francs, pour organiser un dîner à la française aux sœurs qui l'ont recueilli et aux membres de leur petite congrégation. Le repas a une place centrale dans le film, comme on peut s'en douter, car un peu moins de la moitié de la durée du film est consacrée à la préparation puis à la dégustation de ce véritable festin. La gastronomie est ici traitée dans son opposition aux mœurs sévères de cette petite communauté, car tout oppose la nourriture révoltante que préparent les deux sœurs. On a l'occasion de voir la préparation d'une bouillie à base de pain rassis et de bière qui est tout à fait révoltante, et la générosité et le raffinement du festin de Babette. L'une des deux sœurs, aux approches du dîner, fait un cauchemar à propos de cette nourriture diabolique, notamment à propos de la viande dont il ne mange jamais, qui est présentée comme une puissance démoniaque. Les animaux sont d'abord vivants quand ils arrivent sur l'île, on voit la tortue géante, qui a une puissance exotique et reptilienne. On voit des petites cailles dans leur cage. Puis ils sont vus morts et crus entre les mains d'abord du neveu de Babette qui porte les rebuts sur sa brouette et entre les mains de Babette qui décapite des cailles dénudées. La puissance démoniaque de cette nourriture carnée est portée à son plus haut dans le rêve de la vieille dame, qui est donc mise en scène, la vieille dame ce n'est pas Babette, hein, c'est une des deux sœurs, qui est mise en scène par Gabriel Axel dans une danse fantastique de tortues, de têtes de veau sur fond de flammes. C'est suite à ce cauchemar que la vieille sœur met en garde les membres de sa confrérie. Il ne faut rien dire à propos de cette nourriture satanique, ne même pas penser à ce qui va être présent dans l'assiette. Suite à cet avertissement, le film prend une portée donc véritablement tragique lors du festin. Il commence comme une véritable scène biblique, hein, scène C-E-N-E, puisque les convives sont 12 autour de la table et que Babette leur sert à la fois sa chair et son sang, donc le produit de son art, sa gastronomie, et le sang, qui est donc ici un vin et pas le moins bon puisqu'il s'agit de Claude Vougeot. Babette montre une dernière fois qu'elle est une artiste. Elle était donc chef au Café Anglais avant la commune. La tragédie à venir, c'est donc le refus de ce don que l'on sent, que l'on pressent par le mutisme appuyé des convives. Les invités à ce repas luttent tout d'abord contre la puissance pacificatrice et unificatrice de ce qu'ils ont dans l'assiette. Ils ponctuent le silence de citations bibliques. Seul le général invité fait bon accueil et ne comprend pas le silence des autres. C'est la tirade du général qui va dessiller les yeux des spectateurs et inviter les convives à la paix et à la justice qui se rencontrent enfin dans ce repas. Ce repas qui réconcilie l'appétit physique et l'appétit spirituel. Le film trouve donc une conclusion heureuse car les convives sont finalement déliés par la gastronomie, conquis et rapprochés les uns des autres. Gabriel Axel filme la cuisine de Babette avec ferveur. Les éléments de ses plats apportent couleurs vives et formes rondes dans un univers de fadeur et de tristesse. En effet, la bouillie que préparent les sœurs pour leur souper est marron, terne, mélange de bière et de pain rassis. Les personnages eux-mêmes sont gris, ils ont les cheveux gris, ils sont assez ternes, et la grisaille du Jutland ajoute à cette impression de fadeur à l'écran. Ceci pendant une bonne moitié du film, car les couleurs et les formes sont introduites donc dans une deuxième moitié, dans le champ de la caméra, par les éléments de la gastronomie, c'est-à-dire le vin, les fruits opulents, la rondeur des blinis et des cailles en sarcophage. C'est toute une dimension de plus qui apparaît aux yeux du spectateur. De plus, le repas a valeur de messe, on peut le supposer du moins, par les préparatifs de la table, le repassage de la nappe qui semble donc préparer un autel, les verres qui reflètent la lumière comme des milliers de petites chandelles. Et il y a une certaine symbolique dans la manière dont la cuisine de Babette est filmée. À chaque fois, Axel filme le geste qui finit la série. Je m'explique, lorsque la caméra filme Babette préparer un sarcophage de pâte crue, on la voit ajouter ce petit rond de pâte crue aux 11 autres prêts à être enfournés. C'est le même processus pour les cailles et pour les blinis. À chaque fois, on la voit préparer la dernière caille, le dernier blini. Ainsi, on a le sentiment qu'au-delà de la symbolique du nombre 12, Axel veut nous montrer que Babette apporte sa complétude à la communauté. Elle apporte l'élément manquant. Et cela, symboliquement, s'élargit à son festin lui-même.
Thank you.
le film d'Abdelatif Kechiche met également la cuisine au centre dans le film. Il y a deux scènes en particulier qui mettent la cuisine au centre. La scène du couscous familial et la scène donc d'attente du couscous au restaurant que nous allons analyser dans quelques instants. Comme le titre l'indique, donc la graine et le mulet, le scénario est porté par le talent culinaire d'un des personnages principaux, qui est Swad, qui est l'ex-femme de Slimane, qui est très douée donc pour le couscous au poisson, puisque le mulet est un poisson. Et la graine donc fait référence à la graine du couscous. C'est autour de cette spécialité que Slimane fonde l'espoir de fonder un restaurant sur un bateau dans le port de Sète. Il veut organiser une soirée de lancement et invite les notables locaux pour les convaincre qu'il peut sans problème ouvrir son restaurant, qu'il a les épaules et il veut également peut-être obtenir un peu d'aide au passage. La première scène qui met le couscous à l'honneur est donc une scène de couscous familial dans l'appartement de Swad, un HLM de la banlieue de Sète. Ils sont nombreux autour de la table, des tables, puisqu'il y a une table des adultes, une table des enfants, et la dimension de partage est perceptible. Comme c'est un plat à base de poisson, les enfants s'aident à manger, la plus grande des petites est chargée par sa mère d'enlever les arêtes de poisson pour ses petits frères et sœurs. Comme tous les plats festifs, le couscous est l'occasion d'une réunion, et c'est bien ce que compte nous faire sentir Kechiche. Le réalisme du repas est rendu par le bruit qui règne dans l'atmosphère. Il y a plusieurs conversations, il y a des phrases qui fusent de part et d'autre, on se coupe la parole, et notamment la maîtresse de maison qui assure la bonne distribution du couscous et donc coupe la parole aux uns et aux autres. Le couscous est un sujet de conversation important dans la discussion. Il prend une valeur métaphorique puisqu'il représente l'amour. C'est le couscous de l'amour, dit Swad, notamment parce que Swad prépare une assiette pour Slimane, son ancien mari, à charge de ses fils de lui faire parvenir. Pour se moquer gentiment d'elle, d'ailleurs, ses enfants lui disent qu'elle est encore amoureuse de Slimane et que ça se voit à la taille de l'assiette qu'elle lui offre. On comprend que le couscous est une sorte de symbole non seulement d'amour, mais d'identité, parce que même la belle-fille qui est au régime en prend. Et même le bébé a le droit à son petit morceau de poisson, même s'il ne mange pas tout à fait de la nourriture solide encore. Le poisson qui est porté à sa bouche par les doigts de sa grand-mère. Comme dans le reste du film, c'est une caméra à l'épaule, une caméra tremblante qui filme en gros plan les gestes et les regards et qui rend ainsi très bien l'expression des acteurs. Cependant, ce n'est pas le plat en lui-même qui est filmé, mais véritablement le repas. La présence du couscous à l'écran est plutôt là en passant. Les indices de sa présence sont dans la bouche d'un personnage qui rit la bouche pleine ou de Swad qui agite des mains couvertes de semoule grasse, indice d'une manière traditionnelle de manger, avec les doigts, là où sa descendance utilise des couverts. La deuxième scène qui met le couscous à l'honneur, par son absence justement, est la scène centrale du film. C'est la soirée de lancement du restaurant qui occupe quasiment une heure et qui est assez éprouvante pour les spectateurs comme pour les personnages, car le couscous a disparu. La graine a été laissée dans le coffre de la voiture, l'un des personnages ayant disparu avec cette voiture. Le scénario a ceci en commun avec celui du festin de Babette, qu'il y a deux histoires en parallèle, on pourrait dire, une histoire en cuisine et une histoire en salle, qui s'opposent car les personnages en salle n'ont pas les mêmes éléments que ceux en cuisine. Ces deux décors s'opposent d'autant plus que la vraie cuisine dans laquelle est fait le couscous n'est pas celle du bateau, mais celle de Swad. Le bateau est une scène donc à plusieurs égards, la scène des espoirs de Slimane, la scène pour les personnages qui jouent la comédie entre eux, et une scène de danse, puisque cette scène de danse est centrale évidemment pour la conclusion du film. Dans les deux cas, c'est-à-dire dans le festin de Babette et dans la graine et le mulet, il y a un enjeu identitaire et existentiel autour de la cuisine. Dans le festin de Babette, c'est l'art de Babette qui est en question. Dans la graine, c'est le destin de Slimane qui se joue et plus largement le destin de la communauté musulmane. Il faut qu'il assure le dîner, que le couscous soit prêt à temps, qu'il plaise à la communauté des notables. Il y a en et un hors de la communauté, comme il y a un en et un hors de la salle du dîner. Il y a une triche en quelque sorte, puisque personne dans la salle ne se doute que le couscous est préparé dans un appartement hors du bateau, et donc non sur le bateau. Le bateau n'est pas encore tout à fait équipé pour. Le couscous est un symbole évidemment fort donc de l'indépendance de cette culture et de ses traditions, et en même temps le symbole de l'aliénation à cette culture et le symbole donc du fait qu'ils sont réfugiés dans une autre culture. C'est sans doute le sens de la danse d'Afsia Herzi dans le dernier quart d'heure du film, qui offre au regard dévoyé de la salle sa jeunesse, sa beauté, sa sueur. Elle met un costume de danse orientale et les captive avec son exotisme et sa beauté. C'est la tragédie finalement de cette communauté soumise au bon vouloir de la bourgeoisie locale, qui les voit avec un œil qui est finalement assez colonialiste.
La spinage o la bouchon, si grette de portobello, si rocky spaghetto, qui le tout là, qui le tout.
Nous le disions dans notre dernière émission, Arte a diffusé une trentaine d'œuvres de Laurel et Hardy durant les fêtes de Noël et a réalisé de belles audiences, je dirais même de très très belles audiences. Plus que jamais, les films burlesques de l'âge d'or du burlesque, hein, on considérera donc les débuts du cinéma à l'avènement du parlant en 1927, et les films burlesques un peu plus tardifs, essentiellement ceux de Laurel et Hardy et des Marx Brothers, ces films burlesques sont générateurs de cohésion en période de fête en raison du caractère universel des procédés comiques qu'ils mettent en œuvre. Des coups de bâton ou une belle gamelle font rire à la fois Pépé et le petit cousin venu de la campagne. Mais le burlesque, dans le cas de cette diffusion sur Arte, a été affublé malgré lui d'un attribut bien peu flatteur. Au burlesque, en fait, colle une certaine image passéiste, un petit peu surannée, et si on les diffuse aux fêtes de Noël, c'est parce qu'ils présentent une sorte d'attendrissante désuétude, avec un petit côté « c'était le bon vieux temps ». En examinant les représentations des spectateurs, on remarque vite que le burlesque a totalement vampirisé les conceptions que l'on se fait des premiers temps du cinéma. Le personnage de Charlot incarne à lui seul le genre burlesque, et le genre burlesque incarne à lui seul l'archétype du cinéma muet. Si vous me suivez, Charlot, en supprimant l'intermédiaire, incarne le cinéma muet. Soyons honnêtes, si l'on nous demande de penser à un film muet là spontanément, il y a 90% de chances pour que l'on pense à un film de Charlie Chaplin ou éventuellement de Buster Keaton, plutôt qu'à Naissance d'une nation de David Griffiths ou au Cheval de fer de John Ford. Alors même que plus de la moitié de la production cinématographique de 1895 à 1927 était des westerns. Je me suis alors permis de me demander quel avait été le rapport de la critique, française ou anglo-saxonne, avec ceux que l'on appelle les grands burlesques, d'ailleurs sans doute à juste titre, et quel est leur statut, le statut de ces grands burlesques dans le paysage cinéphilique actuel. En premier lieu, la critique, qui naissait elle aussi en ce temps-là, a rapidement reconnu l'apport que constitue l'œuvre des grands burlesques dans l'élaboration du jeune langage cinématographique. Max Linder, un burlesque français, qui tourne à partir de 1905, soit 10 ans seulement après l'invention du cinéma, fait figure de burlesque primitif, mais en reste encore au stade du théâtre filmé. Il tourne des situations courtes, avec de petits gags, le plus souvent en plan fixe. Chaplin reprendra sa gestuelle dans les nombreux courts-métrages mettant en scène le personnage de Charlot, en y intégrant de premiers éléments de montage cinématographique, afin par exemple de développer deux narrations parallèles ou de réaliser des chants contre chants. Buster Keaton ira encore plus loin, notamment avec son œuvre la plus célèbre, Le Mécano de la Générale, en 1927, où la mise en scène est centrée sur les contorsions du corps de l'acteur, gesticulant sur une locomotive en marche. Aux côtés de Chaplin et Keaton et de leur ancêtre Max Linder, les critiques de l'après-guerre ont également noté l'importance de l'œuvre d'artistes burlesques un peu plus méconnus, tels Carol Lloyd, Harry Langdon ou Fatty Arbuckle, un personnage très sympathique dont l'embonpoint n'a d'égal que son irrévérence. Ces trois-là, suivis par d'autres encore plus méconnus qu'eux, ne mettent pas en œuvre de réelles stratégies narratives. Leurs films sont des suites de gags qui mènent le héros d'un point dans l'espace à un autre, selon les mésaventures qui lui adviennent. À leur manière, ils contribuent à la progression du montage cinématographique, car ils inventent des rythmes fous et parfois même des effets de suspense, et on pense ainsi à la célèbre image d'Harold Lloyd accrochée à l'aiguille d'une horloge en plein Londres. L'âge d'or du burlesque a connu une fin brutale. En 1927, le parlant provoque le désintérêt du public pour le muet de manière quasi immédiate. les rares continuateurs que sont Laurel et Hardy et les Marx Brothers composent désormais avec la parole et leurs gags prêtent certes encore à sourire, mais non plus la verve et l'ingéniosité de ceux du temps où l'image seule pouvait parler. Mais alors que dans les années 50, l'œuvre des grands burlesques semble déjà appartenir au passé, Chaplin et ses disciples trouvent en les comiques anglais d'inattendus héritiers. En Angleterre, Peter Sellers, aux États-Unis, Jerry Lewis, et dans l'ordre chronologique, Jacques Tati, Pierre Etex, Louis de Funès, puis Pierre Richard en France, ont réemployé la gestuelle et la pantomime de leurs inspirateurs. Plus proche de nous, des acteurs s'affirment comme les héritiers les plus récents des grands burlesques. Jim Carrey privilégie un jeu dont l'expressivité provient de l'art de la grimace, cher par exemple à un Fatty Arbuckle ou à Hardy dans le duo Laurel et Hardy. Jackie Chan, quant à lui, emploie la scénographie des arts martiaux à des fins burlesques et a inventé ainsi le concept de combat comique. Force est de le constater, le lien entre Rush Hour et les courts-métrages de Charlot n'est pas évident. Le burlesque n'a survécu que dans l'esprit de ces films, pour n'être au fond qu'un moment où les personnages parlent avec leur corps et non plus leur voix. La grimace et les poings deviennent leurs moyens d'exception, hein, dans le cas des exemples que j'ai employés, et vous aurez reconnu, je pense, hein, sans peine, lequel moyen d'expression appartient à Jim Carrey et lequel à Jackie Chan. Le burlesque ainsi réduit a perdu son caractère subversif originel, car on rappelle quand même que les courts-métrages de la Keystone, hein, le grand studio de production de films burlesques, présentaient de nombreux personnages de policiers qui incarnaient l'autorité, qui étaient surnommés les Keystone Cops. Ces personnages étaient ridiculisés, voire même roués de coups par le héros. Les gags, en outre, ne malmènent plus autant les corps qu'avant. En gros, pour résumer, le burlesque de l'art du gag est devenu peu à peu de la clownerie. Dans les films de Louis de Funès, cependant, on retrouvait encore quelques instants de saut dans le vide, des instants hors structure, en gros, qui ne servent à rien, pour ainsi dire, où l'acteur fait le pitre face caméra sans que cela n'apporte rien à la narration. La plaisanterie burlesque est désormais tenue en bride, elle doit s'intégrer à un scénario et ne peut plus constituer un film à elle seule. Pour reprendre mon exemple sur Jackie Chan, on n'imaginerait pas qu'un de ses films ne comporte que de la bagarre sur le mode burlesque. Il y a une dizaine de scènes de bagarre par film environ, mais qui s'imbriquent dans un schéma narratif bien tenu. Vous allez croire que j'ai perdu le fil de mon raisonnement sur le rapport entre la critique et les grands burlesques. Pas du tout. Comme les rares héritiers actuels du burlesque ne valorisent plus le gag pur, mais le noient dans une narration, la critique a fini par adopter le même jugement et a ainsi peu à peu fait le tri. Chaplin, dont la carrière a débuté avec du gag pur dans les courts-métrages de Charlot, mais qui a peu à peu intégré des scènes burlesques dans des films avec une narration développée, des films dont le dictateur est le prototype, Chaplin règne donc en maître des burlesques. Keaton lui est fréquemment opposé dans une représentation très et même trop duale du burlesque, comme l'homme qui ne rit jamais par opposition à Charlie Chaplin. Ses films présentent aussi des gags, mais comme Chaplin, au sein d'une narration développée, avec même parfois une épaisseur historique. La guerre de sécession est un thème omniprésent dans le mécano de la générale. Les autres, Harry Langdon, Harold Lloyd, Fatty Arbuckle et tant d'autres, ne sont connus que des cinéphiles les plus avertis et on leur reconnaît bien moins volontiers du génie, ils passent en fait pour de joyeux amuseurs de galerie. On le voit donc, la critique a été assez injuste avec les burlesques de second rang et avec les grands burlesques en général. Leur héritage dans les comédies actuelles sont particulièrement déniés et le burlesque passe ainsi pour l'antiquité du cinéma, pour un genre fossilisé, formant un monde à part duquel personne n'a survécu après l'avènement du parlant, Chaplin excepté bien sûr. Pour ceux qui souhaitent se faire leur propre avis, je rappelle que la plupart des films évoqués à l'instant sont disponibles gratuitement et légalement sur Internet, car ils sont tombés dans le domaine public. La validité des droits d'auteur pour les films américains est de 80 ans, ce qui, en faisant rapidement le calcul, rend disponibles tous les films sortis avant 1932, et cette législation passe pour un petit miracle à l'ère de la vie sans méga-upload.
Pour finir en beauté, les plus belles sorties en DVD et les sorties alléchantes dans les salles obscures. Si vous cherchez un film sympathique, regardez du côté de Skylab de Julie Delpy qui sort en DVD le 7 février. Le film a remporté un joli succès en salle en raison de son côté antidote contre la crise qui mobilise la nostalgie des 30 Glorieuses et des vacances en 4L, chères au cinéma français actuel. Les deux sorties les plus intéressantes sont toutefois Habemus Papam de Nanni Moretti, bien que moins inspirée que dans ses précédents films comme Le Caïman, ou surtout La Chambre du Fils, et Drive de Nicolas Winding Refn. Nul besoin de présenter cette révélation, qui compte parmi les films les plus importants de l'année écoulée. C'est un film à garder dans toute DVD tech qui se respecte. En salle, Abel Ferrara est finalement parvenu à sortir Go-Go Tales avec Willem Dafoe, que nous avions vu au Festival de Cannes en 2007. Ça remonte donc. Cette chronique de cabaret, un peu dans l'esprit du récent tourné de Mathieu Amalric, manque de saveur et n'impose pas de se ruer dans les salles pour elle. Le 15 février sort également La Dame de Fer, un biopic de Margaret Thatcher, où le rôle-titre est tenu par l'infatigable Meryl Streep. On ignore ce que cela vaudra et nous redoutons un certain académisme pour un long-métrage signé par la réalisatrice de Mamma Mia.
Trois reprises également, mais à chaque fois, ce sont les chanceux parisiens qui en profiteront. Ville haute, ville basse de Mervyn Leroy, un standard du film noir assez méconnu en France, la grande illusion de genre noir que l'on ne présente pas et qui devrait tourner dans le pays, notamment à la rencontre des publics scolaires. Et enfin, George Lucas a finalement entrepris de ressortir les 6 films composant la saga de la Guerre des Étoiles en 3 dimensions. Et le cycle débute donc avec le plus mauvais épisode, à savoir l'épisode 1, parfaitement puéril et déjà ringard seulement 12 ans après sa sortie. On attend donc avec impatience la sortie de la première trilogie Star Wars en 3D. Nous arrivons au terme de ce 25e numéro de Transversar consacré au cinéma et nous espérons que vous avez passé un moment sympathique en notre compagnie. On se retrouve dans environ 3 semaines pour un nouveau numéro. Au revoir Pauline, d'ici là, que le cinéma vous garde. À bientôt sur Transistor.
Au revoir.